Donc on parle de vitalité théologique et je vais être un bon élève, je vais citer le surintendant général des assemblées de la Pentecôte du Canada, à savoir David Wells, qui parle français, non, enfin, qui a été traduit en français. Et voilà ce que David Wells peut dire. Il dit « La vitalité théologique ainsi qu'une connaissance croissante de Dieu et de sa parole dans la vie de chaque disciple de Christ sont essentielles si nous voulons réaliser l'objectif d'Initiative 2020. Nous ne partageons pas un évangile qui serait enraciné dans nos propres rêveries et expériences. C'est la vérité de Dieu, telle qu'elle est révélée en Jésus, qui affranchira les gens pour expérimenter ses desseins pour leur vie. » On va commencer avec une première présentation du docteur David Couret, qui est le doyen du deuxième cycle au Continental Seminary en Belgique, à Bruxelles. Il est donc le doyen. Il a un baccalauréat de Bishop University, une maîtrise de l'Université Laurentienne et un doctorat de McMaster Divinity College. Ses domaines de recherche et d'expertise sont l'histoire de la théologie et la théologie pentecôtiste plus particulièrement. Et donc, David va nous parler plus particulièrement des problématiques contemporaines concernant la théologie pentecôtiste. Alors, on lui laisse toute la place. Vous avez une feuille qui va avec. Et puis, bienvenue à Montréal.
Alors, bonjour. Ce matin, je me présente devant vous un Québécois né ici à Montréal, élevé de l'âge de 10 ans à Trois-Rivières et puis habitant des cantons de l'Est pendant plusieurs années. Mais est-ce que c'est possible en 2016 d'être un Québécois anglophone? Est-ce que ça se fait? Hein? Parfait. Alors, je vous demande de me pardonner mon français tordu. La franche vérité, c'est encore pire en Europe. Quand j'enseigne, quand je prêche, on rit de moi, puis je sais jamais qu'est-ce qui se passe. Hein? Si c'est ma profondeur théologique, ou peut-être c'est mon français québécois, hein? Ils en connaissent rien de ça. Et peut-être encore pire, je suis en train de détruire la langue de Molière. Et alors je vous demande pardon. En tout cas, je suis né dans une famille arabe. Dernièrement, on me dit en Belgique, ça serait mieux de me présenter comme italien, mais ma mère était catholique libanaise, née à Trois-Rivières. Mon père est né à Damas et il est venu d'une famille orthodoxe. Et moi, après mon petit détour dans la drogue et la boisson, où j'aurais pu me noyer dans le péché, j'ai reçu la nouvelle naissance à l'âge de 19 ans. À 21 ans, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et dans une petite église pentecôtiste de Lennoxville, au sein du réveil charismatique des années 70. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Hein? Vous êtes trop vieux. Alors, je vous conte mon histoire ce matin afin que vous me connaissiez un peu, mais aussi pour établir que je suis un vrai charismatique. Hein? Je suis ici comme un véritable pentecôtiste, hein? Je le jure. Alors, la raison, c'est parce que pour moi, la plus grande question de vitalité théologique, c'est plutôt une question plus évangélique. Une question que j'ai été posée plusieurs fois par les baptistes et les frères chrétiens quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Que font les pentecôtistes avec la parole? Est-ce qu'ils croient à la parole? Est-ce qu'ils lisent la parole? Est-ce qu'ils sont étudiants de la parole de Dieu? Et franchement, pour moi, la réponse était assez claire dans les années 70. J'étais certain que nous étions des étudiants de la parole et que nous voulions vraiment vivre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Mais aujourd'hui, je pense pas que la réponse peut être aussi claire qu'elle était dans les assemblées de pentecôtistes. Théologiquement, on se trouve dans une bataille pour décider De quelle façon qu'on peut parler aujourd'hui de la place et la nature de la Bible dans nos églises et à travers l'Internet aussi? Et le monde postmoderne dans lequel nous sommes appelés à offrir notre témoignage et dans lequel on est appelé à vivre notre vie chrétienne, ce monde-là nous pose une problématique même parmi nous dans l'Église. Pour bien comprendre ce qu'on entend par le concept de l'autorité de la parole de Dieu. Alors, on est, je pense, un peu coincé entre une théologie évangélique qui semble à nous pousser à comprendre la parole, comme l'a dit Brian McLaren, comme si elle était une constitution. Est-ce que la Bible est plutôt comme une constitution avec des lois, des propositions, avec des principes? Et si on vient à bien comprendre ces principes-là, si on vient à bien faire l'exégèse pour mieux approfondir notre compréhension de la parole, on arrive maintenant à savoir qu'est-ce que Dieu nous a dit il y a 2000 ans, et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre la Bible? C'est plutôt une interprétation très fixée au niveau rationnel et pas nécessairement existentielle. Alors, comme je vous propose, on est coincé entre cette théologie évangélique de la parole, d'un côté, et un genre de subjectivité postmoderne. Et dans notre milieu pentecôtiste, une fluidité charismatique qui met en question la possibilité d'une parole qui nous parle avec autorité et clarté. Parce que maintenant, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus la Bible comme prophétie personnelle. Hein? Dieu me parle et je cherche à écouter la voix de l'Éternel et il me parle personnellement. Et dans cette situation, on se trouve un peu perdu pour des réponses à les questions dont l'Église doit répondre. Dans cette situation, les érudits pentecôtistes parlent d'une herméneutique pentecôtiste qui met la signification dans un jeu entre la parole, la communauté chrétienne et l'esprit. Ce qui me semble prometteur à première vue, mais enfin qui compromet, je pense, ou mine le concept d'une parole objective. Alors, quoi faire dans les rangs pentecôtistes? On veut surtout une parole qui nous affranchit spirituellement, mais qui retient aussi un caractère objectif, qui nous parle de la perspective divine. Et nous en aurons notamment besoin de nos jours. L'avenir qui nous aborde tout de suite nous demande des nombreuses questions et nous pose des nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et quel genre de réponse qu'on va donner? Nous allons arriver à une prise de conscience critique sur cette question quand et pas si quand nous nous réunissons pour discuter des questions d'orientation sexuelle et les questions transgenres. Ça s'en vient, c'est dans nos églises déjà, on en parle, on cherche des réponses et on se demande, qu'est-ce qu'on va dire ensemble en tant que fraternité pentecôtiste? À ce moment où on va commencer à discuter ces sujets, je pense qu'on va découvrir à quel point nos concepts de l'autorité biblique sont divers. En effet, alors que nous avons toujours bavardé de notre fidélité envers la Bible, nous n'avons pas réfléchi suffisamment profondément sur ce que nous entendons par ce concept. Comment doit fonctionner la Bible dans l'Église pentecôtiste canadienne? Ou peut-être ce serait peut-être mieux de demander Quels sont les moyens les Écritures doivent parler parmi les communautés remplies de l'Esprit appartenant à notre fraternité, notre communion? Je pense que cette discussion va découvrir la réalité que nous ne sommes pas aussi unis qu'on aimerait, mais de contraire qu'on est plusieurs communautés ayant des intérêts communs et des préoccupations qui se chevauchent. Ce n'est pas un nouveau problème. Et j'ai une réponse qui me parvient d'une source assez improbable. C'est un de mes héros, Martin Luther. Hein? Est-ce que vous le connaissez, Luther? Ça, c'est un pentecôtiste pur laine, ça. C'est un pentecôtiste originaire. Luther, je pourrais en parler à longueur, mais j'ai d'autres choses à dire à propos de Luther. Il se trouvait pris entre deux spiritualités concurrentes, le magistère de l'Église catholique romaine, qui voulait maintenir les droits exclusifs de l'interprétation biblique pour eux-mêmes, et pour ce monde, la Bible a été faite non pertinente, car elle ne pouvait pas être le livre du peuple, mais en vérité était réservé aux initiés, les connaisseurs qui détiennent l'autorité d'offrir une interprétation authentique. C'est un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Quand on ajoute trop les mots grecs dans nos sermons, on s'appuie trop à l'hébreu. Vous savez, la traduction ici n'est pas exacte, mais on se trouve comme un magistère. Et peut-être il y a danger qu'on ôte la Bible du peuple. Mais de l'autre côté, Luther se plaignait des enthousiastes. C'était un groupe de voix de plus en plus nombreux et de plus en plus radicales, qui pensaient pousser la réforme plus et plus loin. Et cela n'était pas nécessairement une chose terrible en elle-même, mais il se distançait de plus en plus de la parole objective de la Bible, et en s'appuyant sur l'Esprit, il disait des choses que amenaient peut-être à l'hérésie. Écoutez les mots de Sébastien Franck, qui écrit à un radical nommé Campanus. Peut-être quelqu'un parmi vous pourrait le lire pour moi. Est-ce que quelqu'un le lira? Allez-y. Non, les mots de Frank. Alors, ce que Frank veut qu'on comprend, c'est que l'Esprit est primaire et l'Écriture est d'importance secondaire. Hein? Que c'est notre expérience avec Dieu qui nous donne vraiment la signification, et que la parole de Dieu, on doit l'interpréter selon notre expérience. Et je pense que plusieurs fois dans notre tribu pentecôtiste, c'est notre façon de mettre l'Écriture dans la deuxième position, et en cherchant des expériences spirituelles. Et Luther se trouvait pris entre ces gens-là comme Frank, et entre ces gens-là et les catholiques. Ses avis mettent l'Écriture dans cette deuxième position, et c'est le cœur du croyant qui se place en jugement de la parole. On entend ça souvent dans la pastorale quand quelqu'un nous explique « alors c'est ce que cette parole me dit dans mon cœur ». Peu importe ce qu'elle dit en réalité, mais nous nous trouvons dans le fossé herméneutique en ce moment, entre ma propre interprétation, et j'ai le droit à ma propre interprétation, aussi peut-être l'interprétation de ma communauté spirituelle, l'interprétation de mon Église, et on se trouve dans ce fossé herméneutique entre ces deux interprétations et la possibilité d'une interprétation globale, une interprétation objective. Enfin, la question qui se pose est, est-ce que l'Écriture a droit de s'imposer à moi? Ou est-ce que toute possibilité de signification m'appartient moi-même? Alors, je sais que j'aborde une question très ancrée à la philosophie et je ne prétends pas y répondre aujourd'hui, mais je veux souligner cette pensée qu'on se trouve dans ce fossé. Et si on veut mettre la signification dans le lecteur ou la communauté des lecteurs, je crois qu'on fait danger à une interprétation de l'Écriture objective. Alors, Luther demeure, pour nous, il demeure pris entre ces deux extrêmes. Il cherche une via media entre la position d'expérience excessive chez les radicaux et l'orthodoxie statique dans les églises romaines. L'Allemand Jürgen Moltmann a dit de Luther qu'il a établi la norme pour les temps modernes en affectant la catégorie religieuse en grande partie à la subjectivité du cœur. Je partage ça pour dire que Luther pouvait dire, et il était dans son temps et dans notre temps, un théologue de l'expérience par excellence. Il pouvait dire, avant ses confrontations avec les enthousiastes, quelqu'un pourrait lire la deuxième citation. La deuxième citation. Quelqu'un?
Personne ne peut correctement comprendre Dieu ou sa parole, à moins qu'il ait reçu une telle compréhension immédiate de l'Esprit Saint. Mais personne ne peut la recevoir de l'Esprit Saint sans y expérimenter, y trouver et y sentir. Une telle expérience, le Saint-Esprit nous enseigne que dans sa propre étoile, en dehors de laquelle rien n'est appris, mais des mots vides et du babillage.
Alors, Luther demeure jusqu'à nos jours, par excellence, le théologien de l'expérience. Mais il a saisi ce que nous devrons se rappeler, qu'il y a un sens objectif de cette parole. Oui, c'est quelque chose que je dois expérimenter dans mon cœur, c'est quelque chose que je dois vraiment aborder d'une façon spirituelle. Mais, enfin, il y a une parole qui vient de Dieu, une parole objective. Pour Luther, cela signifie que l'expérience spirituelle ou la rencontre personnelle avec le divin ne s'accomplit pas sans la parole. Et pour lui, ça veut dire qu'on doit entendre la parole, on doit expérimenter le sacrement, avant qu'il ait possibilité d'expérience spirituelle authentique. Mais écoutez-moi, son but, c'était de protéger la nature extra-nos, la nature objective d'une parole qui vient d'au-delà de nous, et la protéger de la manipulation subjective, de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui des expériences charismatiques. Ses interactions avec les radicaux l'ont fait reformuler sa position dans une polémique contre leur prétention d'une expérience immédiate du divin. Ils sentaient, eux autres, que leur expérience était le juge de tout chose. Notre expérience est le critère ultime, ils se disaient. Et il semble que le plus prononcé que cette affirmation de l'expérience immédiate de Dieu était, le plus extrême leur révélation, jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement hérétiques et socialement très dangereux. Il y avait des révolutions qui sont commencées par ces radicaux qui pensaient que le royaume était maintenant et qu'il y avait un qui se pensait le roi David. Alors, il y avait tout genre de révélations dans ce monde-là de Luther. Et Luther a été de plus en plus prudent quant à leurs revendications. Alors, son thème est devenu « Pas d'expérience sans que nous sommes interpellés en avance par la parole ». Mais peut-être ici, parmi nous, hein, les pentecôtistes, on n'oserait pas aller si loin que lui, mais on pourrait pourtant suivre un autre Allemand, Dietrich Bonhoeffer, qui peut nous enseigner deux choses très importantes. Premièrement, il parle de deux niveau de réalité, l'ultime et l'avant-dernier. Et il a deux choses à comprendre que Bonhoeffer peut nous enseigner. Premièrement, ce qui est ultime, c'est Dieu et sa parole. Ça, c'est l'ultime. L'Évangile, c'est l'ultime. La croix, la résurrection, la grâce, la justification, ça, c'est des choses ultimes. Et ce qui est l'avant-dernier, c'est les expériences spirituelles, la prédication, la louange et le témoignage. Ce sont les choses avant-dernières. Secondement, ce que Bonhoeffer nous enseigne, c'est que l'ultime circonscrit et limite les possibilités légitimes de l'avant-dernier. C'est l'ultime qui donne signification à l'avant-dernier. Et je crois que Luther dirait qu'on ne doit jamais confier à la nature humaine pour juger ou discerner l'avant-dernier sans avoir l'ultime. Alors, Bonhoeffer dit, l'avant-dernier, par conséquent, ne nie pas la liberté de l'ultime, mais plutôt la liberté de l'ultime autorise l'avant-dernier. Et l'idée, c'est que la parole de Dieu, cette parole de justification, cette parole de la croix et la résurrection, cette parole objective nous dit que les expériences spirituelles, c'est de bonnes choses, mais il faut les interpréter. Il faut avoir une règle pour les mesurer. Alors, comment mettre les deux ensemble? De quelle façon que la parole de Dieu, disons la Bible, très humaine et à la fois divine, comment elle peut nous confronter avec la réalité divine et le besoin humain? Comment peut-on entendre une voix personnelle qui est à la fois la voix objective et extra nos, la voix au-delà de nous? Le Suisse Karl Barth s'est trouvé dans cette crise. Et il avait été enseigné dans toute la science du criticisme libéral de la Bible. Et chez les libéraux, il a été confronté par la perte d'aucun Dieu objectif et vivant, seulement le dictum attribué à Feuerbach que la théologie n'est rien que l'anthropologie en lettres majuscules. Alors, face à la Première Guerre mondiale, Barth a confronté le défait de tout ce qu'il avait appris. Et sa réponse était vraiment radicale. On en goûte dans une prédication de 1916, une prédication qui s'appelle « L'étrange nouveau monde de la Bible ». L'étrange nouveau monde dans la Bible, c'est-à-dire. Et il se demande, quelle est la Bible? Qu'est-ce que c'est? Et il dit, est-ce que c'est peut-être un livre historique? Et ici, il se déchaîne des problèmes critiques. Il dit non. Le genre d'histoire qu'on y trouve n'est pas de toute façon l'histoire que l'on enseigne à l'école. Et pourtant, même si je ne suis pas d'accord avec sa pensée historique, il a raison. On ne peut pas écrire aujourd'hui ce genre d'histoire qui implique le divin sans l'inspiration du Saint-Esprit, l'inspiration de la Bible. Deuxièmement, il demande, est-ce une loi morale ou une éthique pratique? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Peut-être la Bible nous enseigne comment vivre. Et qui ici a peut-être essayé une fois ou l'autre de vivre selon le sermon sur le mont? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé ça? Et qu'est-ce que vous avez trouvé ça là-dedans? Hein? Moi, je me demande, est-ce qu'il y a de la bonne nouvelle là-dedans? Parce que ça m'a quasiment tué. Et vraiment, quand on essaie de vivre la Bible comme si c'était un manuel d'éthique, ce que je pense, moi, c'est que ça nous remet complètement sur le recours à la grâce. Il n'y a seulement qu'une façon de vivre. Ensuite, il demande, peut-être la Bible, c'est une religion. Mais quel genre de religion? Une religion pentecôtiste? Une religion baptiste? Une religion catholique, orthodoxe, protestante? Quel genre de religion? Écoutez ce que Bardziki va lire pour moi. Vite, quelqu'un. Hey, ça change la façon dont on lit la Bible maintenant. Hein? D'habitude, dans nos prédications, dans notre enseignement, on aime. Et moi, j'étais pasteur pendant 30 ans en Ontario, mais quand même. En 30 ans de prédication, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Bien, j'ai essayé de démontrer comment pratique est la Bible et comment on peut vivre les principes bibliques. Hein? C'est très important. Mais ce que je pense, moi, maintenant, et que je réfléchis un peu, c'est que la Bible ne me présente pas tout simplement une façon de vivre, mais c'est une critique de ma façon de vivre. C'est même une critique de ma religion. Enfin, ce qu'on trouve dans la Bible, c'est une parole. Une parole incontournablement personnelle et une parole adressée à moi, à toi. Écoutez ce que Bart dit. Un autre, s'il vous plaît. Quelqu'un? Lisez pour moi, s'il vous plaît.
Nous avons trouvé dans la Bible un nouveau monde. Dieu, la souveraineté de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour incompréhensible de Dieu, par l'histoire de l'homme, mais l'histoire de Dieu. Non les vertus des hommes, mais les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Non le point de vue des hommes, mais le point de vue de Dieu.
Ici, dans la Bible, je trouve une parole qui me démontre Dieu. Je viens à connaître Dieu. Comment mettre ce Dieu objectif dans le domaine subjectif? Comment mettre les deux ensemble? Bien, la première chose, je crois, c'est que quand je confronte la Bible, c'est la Bible, la parole de Dieu qui me confronte. C'est la parole de Dieu qui me interpelle et qui me met au défi et qui m'appelle envers ce Dieu qui est plus grand, plus large, plus immense que toutes mes pensées, toutes mes imaginations et qui demande quelque chose de moi. Mais, deuxièmement, il faut absolument résister la tentation de séparer la théologie et la spiritualité. Il faut absolument résister cette tentation de séparer la théologie et la communauté chrétienne. Mais en tant que pentecôtiste, c'est la vie qu'on mène ici. Et en tant que étudiant de la Bible et peut-être professeur de théologie, très profonde, oui, on se trouve parfois débarré de l'Église. Comment qu'on doit mettre les deux ensemble? Et je pense que c'est très facile de subir à ce péché de les séparer dans notre tribu. Parfois, la théologie n'est pas invitée au party. Hein? On n'en veut pas dans ce party-là parce qu'elle est tellement ennuyante. C'est plate, ça, cette affaire-là. Qui veut des invités comme ça dans notre party? Mais, aussi c'est possible qu'on ne l'invite pas parce qu'elle pourrait nous mettre au défi. Et pourtant, on a déjà assez de problèmes avec l'Église, hein? Alors, on n'a pas besoin, puis on n'a pas le temps de ce genre de défi. Mais si on n'apprend pas à s'écouter l'un et l'autre, et ce n'est pas seulement l'Église qui doit écouter la théologie, mais la théologie doit forcément écouter l'Église. Si on ne prend pas l'opportunité, si on ne fait pas l'effort de s'écouter l'un et l'autre, on ne va pas tout simplement s'écarter de plus en plus, mais on va tous les deux rater notre appel devant l'Éternel. Et c'est ça, ma perte. Comment les garder ensemble? Écoutez deux voix et je termine. Premièrement, le mystique et le théologien Hans Urs von Balthasar. C'est un Suisse aussi, mais quelqu'un lisait ça. Ce que von Balthasar nous apprend, c'est qu'on ne peut pas séparer la vie spirituelle de la théologie, ni séparer la théologie de la vie spirituelle. C'est la vie de la théologie et cette vie théologique approfondit nos prières. On a besoin des deux ensemble. Et enfin, écoutez les paroles de Barth. Un autre lecteur, s'il vous plaît. Et pourtant, en tant que pentecôtiste, ça doit être notre méthode théologique. Que la théologie ne se fasse jamais que la théologie se fait toujours dans l'atmosphère de la prière. Et que la prière aussi se fait confronter par les vérités théologiques. Alors, est-ce que la parole est une constitution, une liste de lois morales, un texte d'histoire ou de propositions dont il faut faire confiance? Non, non, mille fois non. Elle est beaucoup plus que ça. Écoutez-moi, beaucoup plus, mais pas moins que ça. Est-ce que la parole est le domaine de la voix de Dieu dans notre vie personnelle? Est-ce que l'Esprit peut nous parler personnellement à travers les mots de la Bible? Oui, certainement. Et aussi à travers les paroles de John Lennon et Bono et Charlebois. Hein, c'est ma génération. Hein? Dieu peut utiliser n'importe quel mot pour nous parler. Son esprit n'est pas limité de cette façon, mais la parole doit nous apporter, la parole de Dieu, la Bible doit nous apporter dans un nouveau domaine étrange et bouleversant. Est-ce que la parole peut m'aider à choisir un boulot, à décider si je dois déménager dans une autre province, si ça m'aide peut-être à choisir une épouse? Pourquoi pas? Mais pour me transporter existentiellement par l'esprit dans le royaume de Dieu, pour changer ma vision de la vie, pour changer mes valeurs, certainement pas moins que ça. Alors, nous avons besoin de récupérer la parole et de mettre la parole au centre de notre réflexion spirituelle, de la réflexion de l'Église et de notre réflexion théologique en tant que pentecôtistes, parce que nous avons de quoi à partager à l'Église, au monde, et c'est seulement avec cette parole authentique de Dieu que nous allons être capables de le faire. Merci.
Merci, David. Est-ce qu'on y voit assez clair? Je vais, pour ma part, essayer de répondre juste à une question et après quoi, on pourra avoir un moment d'échange et de débat. La question à laquelle on m'a demandé de répondre est celle-ci. Comment maintenir une vitalité théologique en tant que leader? Ça ne vous a pas échappé que le thème de notre congrès, c'est la vitalité. Et on parle de vitalité spirituelle. Et là, on le comprend. En tant que pentecôtiste, on veut une vitalité spirituelle, une vie de l'esprit. On parle d'une vitalité missionnelle. Et en tant que pentecôtiste, on sait que la mission, c'est important. La mission au près, la mission au loin, ça a toujours fait partie, eh bien, de ce qui caractérise un pentecôtiste. Mais on parle aussi de vitalité théologique. Et là, c'est peut-être plus compliqué. Parce qu'il faut reconnaître que le mot, ne serait-ce que le mot théologie, n'est pas très populaire, et particulièrement chez les pentecôtistes francophones. Peut-être que les anglophones ont un peu moins de problèmes avec, mais chez les francophones, il faut reconnaître que si on vous traite de théologien, on ne sait pas trop si c'est un compliment ou un espèce de théologien. Bon. Si dans l'Église, on veut des théologiens, on n'est pas trop sûr que théologien, c'est un bon mot. Mais pourtant, on parle de vitalité théologique. On dit il faut une vie théologique. Alors, il faut reconnaître que la théologie, ne serait-ce que le mot, est un peu ambigu. Parce que théologie, comme tout ce qui finit par ogie, comme la biologie ou tout ce qu'on veut là-dessus, théologie, ben, c'est le théos, c'est Dieu, et le logos, donc on va dire la parole, la science. Donc techniquement parlant, la théologie, c'est la science de Dieu. Et le théologien et le scientifique, parce que c'est la théologie est un domaine scientifique dans les milieux académiques, hein, ça fait partie, c'est enseigné à l'université. À l'université, on enseigne la science. C'est scientifique. C'est pas juste des idées, c'est de la science. Et donc, quand on parle de théologie, c'est la science de Dieu. Et quelque part, on va dire, il y a une certaine prétention à dire qu'on va vouloir expliquer Dieu. Parce que la science, c'est expliquer. Et le théologien est là pour expliquer Dieu. On va dire, est-ce que c'est pas plutôt, comme on l'a entendu, la Bible qui doit expliquer l'homme, enfin Dieu qui va nous parler, bien, nous amener à comprendre qui nous sommes, et puis à comprendre qui est Dieu, tandis que là, c'est le théologien, d'une certaine manière, et celui qui va vouloir expliquer Dieu. Et alors, on va dire, bon, de ce point de vue-là, on n'est pas trop sûr de vouloir être le théologien qui va dire, moi, je vais expliquer, la créature ne peut pas expliquer le créateur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend rien. Donc, il faut garder une posture d'humilité dans le domaine théologique et de ne pas avoir la prétention de tout expliquer, mais au moins de dire, ben, voilà ce que j'ai compris et voilà où j'en suis arrivé. Jésus dit dans la prière sacerdotale hein, de Jean chapitre 17 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il y a besoin de connaître. Et la théologie, c'est donc avoir cette connaissance de Dieu. Une connaissance de Dieu, non pas par la propre réflexion humaine et par une certaine philosophie, et puis de réfléchir un petit peu sur soi, mais cette compréhension de Dieu par la révélation que Dieu donne lui-même à l'humanité, et comprendre ce que Dieu veut nous dire. Comme nous l'avons entendu ce matin à plusieurs reprises, la Bible est au cœur de la théologie. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Ce que l'on connaît de Dieu, c'est ce que la Bible nous en dit. Et en fait, on sait que ce que Dieu a bien voulu nous dire. Et ce serait quelque part un peu prétentieux de vouloir expliquer ce que Dieu nous a pas dit. Et il faut reconnaître avec humilité que la science de Dieu, la connaissance de Dieu, ce que nous savons de Dieu, c'est ce qu'il a bien voulu nous dire. Ce qu'il nous a pas dit, on le sait pas. On peut faire toutes sortes de suppositions, mais la seule chose sûre et certaine, c'est ce que Dieu nous a dit. Et la Bible est au centre de notre théologie. Maintenant, on parle de vitalité. Il faut que la théologie soit quelque chose qui vit en nous et que ça amène de la vie et que ce soit quelque chose de vibrant. On a entendu ces mots aussi ce matin. Et pour parler de maintenir une vitalité théologique, eh bien, il faut déjà l'avoir. Et la question qu'il faut se poser, c'est où en sommes-nous par rapport à la vitalité théologique? Est-ce que vous vous considérez comme des théologiens vivants? Est-ce qu'il y a en vous une vitalité théologique? Est-ce que c'est ce qui vous caractérise? Vous dites, non, moi je veux être reconnu comme quelqu'un de spirituel. Hein, puis des fois on dit, ben non, dans l'Église on veut des gens spirituels. Et gloire à Dieu, et on veut une vitalité spirituelle. On veut des gens qui sont des témoins, qui sont en mission, qui témoignent, qui agissent, qui sont sur le terrain. Alléluia. Mais est-ce qu'on veut aussi des gens qui théologiquement sont solides? On parle de doctrine, on parle de théologie, on parle de compréhension de la parole de Dieu. On dit que la Bible est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. On est d'accord avec le psalmiste à ce sujet, et de dire, bon, l'Écriture et la Bible n'est pas là seulement pour justifier notre expérience, en disant, bon, on a vécu quelque chose, alors il faut qu'on trouve dans la Bible un verset qui va prouver que ce que l'on a vécu est vrai, est juste, est correct. Mais ce n'est pas juste aller chercher dans la parole de Dieu la démonstration ou l'explication de notre expérience, mais c'est aussi aller chercher ce que Dieu attend de nous. C'est pas simplement dire, bon, j'expérimente, donc je vais voir dans la Bible, mais c'est plutôt dire ce que je lis dans la Bible, est-ce que je l'expérimente? Ça marche dans les deux sens aussi. Maintenant, on est en 2016, mais ce que les apôtres ont vécu dans la première église, ça ressemble un petit peu. Enfin, je veux dire, le monde est le même, hein. Ça change. Bon, peut-être, on n'a peut-être pas les mêmes téléphones qu'il y a 30 ans, mais quand même, au niveau de l'humanité, on reste dans les mêmes problématiques. Déjà, l'apôtre Pierre peut dire, en ce qui concerne la compréhension théologique des lettres de l'apôtre Paul, peut dire, vous connaissez ce texte, hein, dans 2 Pierre, chapitre 3, il dit, vous savez, l'apôtre Paul, il écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Et il dit dans 2 Pierre 3, 16, il dit, ben, c'est ce que Paul fait dans toutes ses lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est l'apôtre Pierre, hein, qui dit, c'est vrai que Paul, des fois, il n'est pas facile à suivre. Et il y a des choses difficiles à comprendre. Bon, mais nous, on comprend mieux Paul que Pierre ne l'a compris. Mais en tout cas, Pierre avait du mal à comprendre Paul. Et il dit, c'est des choses difficiles à comprendre, et il y a des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens de ce que Paul a écrit, et il dit pas seulement de ce que Paul a écrit, mais aussi des autres écritures, et ça c'est pour leur propre ruine. Et malheureusement, le monde dans lequel nous sommes vit ces choses encore aujourd'hui, où on a des frères et sœurs qui sont devant des textes qui sont des fois difficiles à comprendre, et il faut admettre et reconnaître avec humilité qu'on est des fois devant un texte difficile à comprendre, où il y a des points difficiles à comprendre, mais quand il y a des personnes qui sont ignorantes et mal affermies, elles tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Donc comment éviter ce genre de problème ? Ben, c'est lutter contre l'ignorance et le fait d'être mal affermi. Si on construit la phrase à l'envers, si on est moins ignorant, eh bien, on ne va pas tordre le sens des Écritures. Et si on est un peu plus affermi, on ne va pas tordre le sens des Écritures comme ça pouvait arriver à cette époque-là. Et il faut reconnaître que... Vous savez, je vais en Afrique régulièrement, et puis Pasteur Pierre me disait ça aussi, un missionnaire africain, là, que... En Afrique, on peut trouver toutes sortes de théologies spéciales, bizarres. On dit, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Non, mais c'est vrai, hein, des fois, vous avez... Il me disait, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit hier? Il m'a dit, voilà, le Christ, c'est le grand frère de Jésus. Bon, mais quand on n'est pas... Vous êtes affermi, vous dites, non, là, quand même, là... Quand même, on va pas prendre ça. Mais il faut reconnaître que... On est dans un monde où il y a une multiplicité théologique, il y a toutes sortes de divergences théologiques, il y a toutes sortes de points de vue, et puis maintenant, avec Internet, c'est tellement facile de propager un petit peu toutes sortes de positions théologiques, c'est tellement facile d'écrire un livre, et puis il y en a des pages et des pages, qu'il faut arriver à s'y retrouver. Et il faut arriver à faire le point en disant comment la théologie pentecôtiste va se retrouver dans un monde aussi varié, compliqué. L'herméneutique pentecôtiste, comprendre la Bible d'un point de vue pentecôtiste, ben, c'est déjà se soumettre à l'esprit. Hein, et on l'a vu que déjà au temps de la Réforme, il y avait cette pensée-là. Mais j'allais presque dire qu'au temps de la Réforme, quand ils se sont dit « on a besoin de l'esprit », c'est parce qu'il n'y en avait pas du tout. Tandis que maintenant, on arrive dans certaines tendances, des fois ultra-charismatiques, où c'est par l'esprit qu'on dit toutes sortes de choses qui sont même pas conformes aux Écritures. Alors, il faut trouver l'équilibre là-dedans et de dire comprendre l'Écriture nécessite une révélation, nécessite une déclaration, comment dire, un saut, un gage du Saint-Esprit. Je fais référence à Galates, là aussi, il y a une compréhension des Écritures qui varie. Paul dit, je vous ai enseigné un évangile, mais quelqu'un d'autre est venu vous enseigner un autre évangile et puis vous l'avez pris. Comment est-ce que vous avez cru? Qui a pu vous fasciner, vous détourner d'un autre évangile? Là, on est dans Galates, chapitre 1er. Et puis, juste souligner un point, quand l'apôtre Paul dit ça, il dit... Moi, je désire pas la faveur des hommes. Moi, ce que je cherche, c'est pas à plaire aux hommes. Ce que je cherche, c'est plaire à Dieu. Sinon, je serai pas serviteur de Jésus-Christ. Et il dit, je déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et pourtant, l'apôtre Paul a une base théologique solide. Il a été élevé au pied de Gamaliel. Il a son doctorat en théologie, il est très solide théologiquement parlant, mais il dit « ce que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas pris là ». Ce que je vous ai annoncé ne vient pas de ma somme théologique, de mon acquis, de mon bagage intellectuel. Ce que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas appris d'un homme. Je ne l'ai pas appris de Gamaliel ou d'un autre, ou je ne l'ai pas lu dans un livre. On dirait peut-être ça aujourd'hui. Hein. Je ne l'ai pas lu dans tel livre ou dans tel dictionnaire biblique, ou je ne l'ai pas vu sur Internet. Il dit « c'est par une révélation » de Jésus-Christ. Et la vitalité théologique, je veux dire, la théologie ne peut être vivante, vibrante, que quand elle est par révélation. Je suppose que, comme moi, vous avez déjà vécu ce genre de moment où quand vous lisez la Bible, puis tout d'un coup, il y a quelque chose que vous n'avez jamais vu, puis le Saint-Esprit le met à votre cœur, vous dites, waouh, j'ai jamais vu ça. Il n'y a personne qui vous l'a dit, il n'y a personne qui... Mais ça vient prendre vie, et cette théologie-là, cette connaissance de Dieu... Que comme Jésus dit à Pierre, tu es heureux, Simon, Pierre, fils de Jonas, c'est pas la chair et le sang qui t'ont appris ces choses, mais tu l'as reçu, c'est le Père qui te l'a révélé. La vitalité théologique, c'est pas la somme de connaissances théologiques. On pourrait parler l'hébreu, le grec, et puis connaître tous les auteurs de la Réforme, et puis avoir une base théologique solide, mais ça va pas faire de nous pour autant des gens qui vont être... dans cette vitalité théologique. C'est pas dans cette capacité, dans cette somme de connaissances, mais c'est plutôt de ce qu'on en fait. Parce que la connaissance, elle amène à rien. Mais maintenant, la connaissance biblique, la connaissance théologique, la connaissance de Dieu qui nous met en action, c'est ça la vitalité. La vitalité, c'est donc cette capacité, eh bien, de laisser la Bible nous éclairer, mais aussi nous animer, et de laisser cette théologie, cette science de Dieu, cette connaissance de Dieu, eh bien, nous amener à être missionnaires, avoir cette vitalité missionnelle, à nous amener à vivre la vie de l'esprit, cette vitalité spirituelle, nous amener, eh bien, à pratiquer les œuvres de Dieu, parce que c'est pas une lettre morte, mais par l'esprit, ça devient une lettre vivante, parce que c'est l'esprit qui vivifie. Vous connaissez ces textes. Alors, je reviens à cette question. Comment, et je termine avec ça, comment maintenir une vitalité théologique? Comment pouvoir dire, mais moi, je veux cette vie théologique? Ben déjà, il faut rester attaché à la parole. Et vous avez vu les statistiques, hein, ça fait partie, c'est sur le site des Assemblées de Pentecôte du Canada, c'est triste de voir que au Canada, d'une manière générale, puis au Québec, de la même manière, eh bien, les lecteurs de la Bible, les chiffres sont pas forts. On lit de moins en moins la Bible dans les églises. Et les chrétiens lisent de moins en moins la Bible. Et quand on prêche, est-ce qu'on cite la Bible encore un peu? Oui? Hein? Est-ce que la prédication est toujours basée sur la parole de Dieu ou sur ce qui nous est arrivé lors de nos dernières vacances? Pour maintenir une vitalité théologique, il faut une théologie biblique, une théologie basée sur la Bible. Que notre connaissance de Dieu, elle vient pas de l'expérience, elle vient pas de ce qu'un homme nous a dit, elle vient pas de ce qu'un livre nous a dit, elle vient pas de ce qu'un enseignement sur Internet nous a dit, elle vient de ce qu'on a lu dans la parole de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu vient révéler à notre cœur. Et maintenant, je pense que le plus grand défi de l'Église moderne et puis de du leader pentecôtiste moderne, pour maintenir la vitalité théologique, le plus grand défi, c'est la capacité de faire le tri. Parce que quand on dit « mais je veux aller chercher de la connaissance », je veux comprendre plus. Bon, c'est quoi la jeunesse, là? Je veux comprendre un peu plus ce qu'il y a dans la jeunesse. Je veux comprendre un peu plus ce qu'il y a dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, on va chercher un livre, on va chercher un auteur, on va chercher un dictionnaire biblique, on va chercher un commentaire biblique. Et il y a de très bonnes choses dans ces commentaires bibliques, et il y a de très bonnes choses dans ces dictionnaires. Mais il n'y a pas que des très bonnes choses. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de ressources que des fois, vous allez tomber sur des choses qui vont être une bonne information, hein, on va vous apprendre un contexte historique, un contexte géographique, puis on dira, ben, puis on va vous expliquer que tel mot en grec, ça peut vouloir dire ça. Puis il y a des informations ici qui sont importantes, mais les conclusions et ce que ça nous apprend sur Dieu, donc la théologie qui en découle, eh bien là, il faut être capable de faire le tri. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choix. Et si on prend tout pour du cash, on va finir par croire tout et n'importe quoi. Et comme on l'a entendu ce matin en séance plénière, eh bien même pas perdre notre identité pentecôtiste. Parce que finalement, on a un livre qui a été écrit par un érudit baptiste qui est excellent, un autre qui a été écrit par un méthodiste qui est formidable, un autre qui a été écrit par un pentecôtiste, on va dire en français, on a du mal à en trouver. Hein. Malheureusement, hein, parce que les francophones, j'espère que ça va arriver un peu plus, on a quelques auteurs là qui vont écrire. Mais de dire, être capable de faire le tri, et ça demande du discernement. Et le discernement fait partie de la vie de l'esprit. Et de dire, Seigneur, aide-moi, comme de la même manière que pour le prophétique, l'apôtre Paul enseigne de garder ce qui est bon et de laisser de côté ce qui l'est moins, qu'on puisse de la même manière, en ce qui concerne notre théologie, être capable, quand on lit un ouvrage, un livre, un dictionnaire biblique, ou même qu'on entend un enseignement, être capable de prendre ce qui est bon, de ce qui fait écho dans notre cœur, et de laisser le reste de côté en disant, ça c'est peut-être son opinion, mais tant que le Seigneur ne me le révèle pas, ne me met pas une conviction dans le cœur, je ne vais pas adhérer à ce genre de choses. L'apôtre Paul dit exactement la même chose aux Éphésiens. Et la prière qu'il fait pour les Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, verset 16, je vais lire verset 17, il dit, la prière qu'il fait, c'est que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pas simplement avoir de la connaissance à l'état brut, mais avoir un esprit de sagesse et de révélation. Et lorsque nous voulons approfondir nos connaissances théologiques, on a besoin de cet esprit de sagesse. Et on a besoin de cette révélation. Il dit au verset 18, « qui l'illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance, ainsi de suite. » Et on a besoin de cette illumination, de cette direction pour être capable de comprendre ce que l'on lit. Vous savez, quand l'Éthiopien rentrait de son pèlerinage à Jérusalem et que Philippe le rencontre, il lui pose cette question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et c'est l'Esprit hein, qui envoie Philippe. C'est par l'Esprit qu'il arrive là sur cette route qui était déserte, mais il trouve cet Éthiopien. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et nous, bien souvent, lorsque nous lisons la Bible, si le Seigneur nous pose la question, que ce soit par l'intermédiaire de l'un ou de l'autre, qui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Eh bien, on va dire, ben, la réponse de l'Éthiopien, c'est de dire « Si personne m'aide, ça va être difficile. » Et ça peut être notre réponse aujourd'hui, mais le premier aide que le Seigneur nous a donné, c'est l'Esprit. Et qu'on peut se dire, Seigneur, aide-moi par ton Esprit à comprendre ta parole. Mais là, vous allez dire, dans cet exemple-là, il y a quand même un homme qui est venu aider. Et qu'on peut se dire, ben, Seigneur, mets sur notre chemin les bonnes ressources. Et quand on a des outils, quand on a des guides, que ce soit des dictionnaires, je répète ça, des dictionnaires, des encyclopédies théologiques, ou que ce soit des commentaires bibliques, ou toutes sortes d'ouvrages, eh bien, qu'on soit capable de dire, Seigneur, donne, fais en sorte que je puisse prendre le bon là-dedans et que je laisse le mauvais de l'autre côté. Alors, j'arrive, il y a ma montre qui bip, ça veut dire que j'ai fini mon temps. Alors, j'arrive à la conclusion. Notre vitalité théologique va influencer notre vitalité spirituelle et missionnelle. On est dans un congrès où on a ces trois points et il ne faut pas que la théologie soit le rayon faible en disant, non, nous, on veut être spirituel. Alléluia, on veut l'être. On veut être missionnel. Mais si on a une base théologique solide et si on est vitalement, on dit ça comme ça, si on est vitalement, si on a cette vie théologique, ça va venir avoir un impact sur notre vie spirituelle. Vous savez, quand on a une connaissance de Dieu, quand on réalise la grandeur de Dieu, eh bien, on va l'adorer d'une autre manière. Et quand on a cette connaissance de Dieu qui grandit, puisque c'est la théologie, quand on a une vitalité théologique que l'on maintient, ça va avoir un impact évident sur notre vitalité spirituelle et missionnelle. Et j'arrête là parce qu'il y en a qui vont avoir faim bientôt. Et on arrive à une période de questions. Je ne sais pas combien de temps on se donne parce que... S'il n'y a pas de questions, ça va aller vite. Sinon, on va se donner un 5-10 minutes de questions pour que vous ayez le temps de manger et d'être là à l'appel du surintendant cet après-midi. Alors, la période de questions est officiellement ouverte. Vous pouvez poser une question directement à David, à moi-même, ou juste lancer un sujet, un débat que vous voudriez avoir ensemble, ou un point d'éclaircissement. Quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise ou qu'il se taise. Enfin, oui.
Les conseils ou l'enseignement qu'on peut donner à l'Église ou pour nous-mêmes aussi, concernant la lecture, l'étude des Écritures, est-ce qu'il y aurait des prescriptions à dire sur l'importance qu'on accorde à certaines parties des Écritures? Je pense, par exemple, une fois je me disais, les gens qui passent beaucoup de temps dans l'Ancien Testament, développe une mentalité dans ce testament. Et si on passe tout dans le Nouveau Testament, on développe une mentalité du Nouveau Testament. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Moi, je pense que c'est bien intéressant quand on essaie d'interpréter toute la Bible d'une perspective ou d'une autre. Alors, est-ce que Jésus est le centre de la Bible? Alors, est-ce qu'on doit commencer avec Jésus et interpréter de Genèse à l'Apocalypse de sa perspective? Ou peut-être que la Bible débute avec Genèse et puis on doit construire un point de vue, commençant à Genèse et puis arrivant à l'Apocalypse. Alors, ça nous donne des autres perspectives, et je crois que c'est un exercice qui nous aidera à lire la Bible de différentes façons à travers notre vie. Parce que si on lit seulement, on commence en Genèse puis on finit à l'Apocalypse, combien de fois que vous allez faire ça dans votre vie? Et peut-être vous l'avez fait 5, 10 fois, 15 fois, vous dites, bien, j'ai toujours lu la même chose. Ça nous donne peut-être une façon d'approcher la Bible de perspectives différentes et de se mettre dans une position différente. Est-ce que nous sommes des gens qui montent dans la terre promise ou est-ce que nous sommes des exils? Comment ça change notre interprétation?
Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et on ne veut pas dire, non, non, l'Ancien Testament, c'est dépassé, on est dans le Nouveau, on est dans les deux. Et je pense que c'est bien d'avoir les deux, mais d'avoir une lecture christologique de l'Ancien Testament aussi, c'est sûr. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question.
J'ai des ministères en tête, mais disons que je trouve qu'il y a des personnes qui sont tellement axées sur l'Ancien Testament qu'ils deviennent, sont concernés par l'aspect social, politique, la pauvreté, la misère, etc. Et puis, ainsi par le Seigneur. Mais souvent, ils vivent une culpabilité humaine où il y a une culpabilité sur les autres parce qu'il ne s'est pas équilibré avec priorité sur l'événement de Christ, l'événement de foi et résurrection, la nature de Christ. La grâce semble l'absence de leur approche de la vie chrétienne. C'est pour ça que je pense que si on demeure christocentrique, Jésus a dit, le Saint-Esprit va prendre ce qui est à Jésus, on va vous le donner. Je pense qu'on a une vitalité qui est selon Dieu. L'évangile au cœur de notre expérience, l'évangile qui s'applique dans le mariage, qui s'applique dans la vie, c'est dans l'évangile qu'on redécouvre continuellement qu'on trouve la vitalité. En même temps, je vais poser la question sur la question de la curiosité. On parle d'avoir de la vitalité, être des chercheurs, être des prospecteurs. La curiosité, c'est nourrir une curiosité. Je pense à un cas, par exemple, un prédicateur, il calculait toutes les lettres hébreux, parce que chaque lettre avait un nombre et une image, avec la porte, la fenêtre. Bon. Il faisait tous les calculs pour montrer que dans la Bible, il y a la ménorah un peu partout, il y a les sept, et puis le chandelier, pour ramener tout ça à Jésus. Puis je voyais cette personne, je disais, il faut que tu sois très curieux pour arriver à apprendre l'hébreu, puis, et faire ces calculs-là. Mais son but, c'était vraiment de faire ressortir Jésus, l'œuvre de Jésus, la personne de Jésus dans l'Ancien Testament, et puis de nourrir son Église avec cela. Alors, il y a la curiosité dans les détails, là, qui peut être bonne, mais qui peut aussi être néfaste. Si la curiosité est orientée vers l'Évangile, vers Jésus,
maintenant, par rapport à l'Ancien Testament, on a l'avantage d'avoir le Nouveau Testament où les auteurs du Nouveau Testament lisent l'Ancien Testament. Donc, nous montre une clé de lecture, en regardant comment ils lisent l'Ancien Testament, ça nous aide à lire l'Ancien Testament à la manière des auteurs du Nouveau Testament. Maintenant, par rapport à la curiosité, évidemment, c'est bien d'être curieux, mais là encore, eh bien, il ne faut pas arriver à une conclusion qui est le résultat de notre intelligence et de notre réflexion, mais il faut qu'il y ait toujours un saut, on va dire comme ça, de l'esprit et que soit toujours validé, qu'on dise, bon, est-ce que le Seigneur valide ce que je suis en train de découvrir là? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une autre question aussi.
Je crois aussi que c'est important que nous apportons nos interprétations à la communauté. Mm-hmm. Et que parfois, il y a des choses ridicules qu'on lit sur l'Internet. Mais si on apporte nos interprétations à la communauté, on se trouve un peu corrigé. Un peu.
Une autre question là-bas dans le fond?
Appréciation que je remarque aujourd'hui, malheureusement, on lit beaucoup de livres, ce que vous dites est vrai, on néglige la Bible, et là on se promène de l'est à l'ouest, du nord au sud pour couvrir les 10 ans de prophètes, les révélations, les guérisons. Mais que dit la Bible?
Ben oui.
Et c'est malheureusement ce qui cause des divisions au sein de notre propre fraternité. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui va être révélée, et non l'expérience de monsieur un tel ou madame un tel. Et là, oui, vient notre conférence, c'est bon, il a vécu ça, lui, il a vu de la poudre d'or descendre du ciel. Oui, moi, j'ai vu la Bible. Merci, merci, André.
Alors, je ne sais pas si je peux faire ça après que vous ayez dit ça, mais j'allais citer le Coran. Dans le Coran, on appelle les chrétiens les gens du livre. Ça, c'était à l'époque où Mahomet a écrit le Coran. Les chrétiens, c'était les gens du livre. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, les chrétiens, ce ne soient plus les gens du livre, mais que les chrétiens soient toujours vus comme étant les gens du livre. Et que ce ne soient pas seulement les musulmans qui disent ça de nous. Hein. Mais bon. Pierre, parle.
Un jour, Jésus a dit aux gens religieux de son époque...
Parle un peu plus fort, ils ne t'entendent pas là-bas.
Un jour, Jésus a dit aux gens religieux de son époque, vous êtes dans l'erreur pour deux raisons. La première, vous ne comprenez pas les Écritures. La deuxième, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Alors, je crois que nous, en tant qu'humains, on est toujours en train d'opposer la théologie à la spiritualité. Ce ne sont pas deux choses qui s'opposent, c'est deux choses qui se complètent l'une de l'autre. La théologie nous pousse vers une spiritualité plus approfondie, plus mature, tandis que notre spiritualité vient donner une motivation à notre théologie. Alors, je pense qu'il faut cesser d'opposer le docteur et le prophète. Les deux peuvent travailler ensemble.
Amen.
Et on voit particulièrement ça en Afrique. Dès que quelqu'un a une onction particulière, il fuit les collèges bibliques, il fuit l'enseignement, parce qu'il dit qu'il va le perdre, son onction. Et c'est totalement faux. On peut être fondé spirituellement et théologiquement, et être très fort aussi dans les choses spirituelles.
Amen. Amen. On va se laisser sur cette bonne parole, parce que je sais que pour... Et on vous souhaite un bon appétit.